Bonjour chers auditeurs et auditrices, nous nous retrouvons aujourd'hui pour un nouveau numéro sur les portraits des femmes engagées au service des libertés. Je donne maintenant la parole à Myrna.
Bonjour tout le monde. En effet, nous allons vous présenter les femmes engagées pour les droits de la communauté LGBTQ+.
Donc LGBT est un sigle pour définir l'orientation lesbienne, gay, bisexuelle ou transgenre d'une personne. Mais qu'en est-il vraiment de la situation mondiale pour la communauté LGBT ? 142 pays dans le monde offrent une protection contre les discriminations liées à l'orientation sexuelle, tandis que 70 autres pénalisent les actes sexuels homosexuels, comme en Afrique et au Moyen-Orient, qui les pénalisent de mort. Finalement, seulement 29 pays, dont tous les pays d'Europe, de l'Ouest et l'Amérique du Nord, autorisent le mariage homosexuel.
Comme chanson pour ce combat, nous avons choisi Girls de Girl in Red en 2018. Girl in Red est le nom de la scène de Marie Ulven Ringheim, née le 16 février 1999. C'est une autrice, compositrice et chanteuse norvégienne de indie pop et ouvertement lesbienne. Cette chanson montre les ressentis d'une fille lesbienne qui a peur de se montrer. Voici un extrait de cette chanson.
Présenter quatre portraits de femmes engagées au service des libertés des personnes LGBT. Donc la première, c'est Sylvia Rey Rivera. C'est une militante transgenre qui participe à l'acquisition des droits des personnes de genre LGBTQ+. Elle est notamment la fondatrice de Gay Liberation Front et de Gay Activist Alliance. Elle cofonde également la Street Transvestite Action Revolutionaries, qui s'appelle STAR, avec le drag queen Marsha P. Johnson. C'est un groupe d'entraide aux drag queens et aux femmes non blanches transgenres sans abri.
Marsha P. Johnson, née le 24 août 1945 et morte le 6 juillet 1992, a été au centre du mouvement de libération gay de New York pendant près de 25 ans. C'est une femme américaine transgenre et une drag queen. C'est une des premières personnes à avoir riposté contre la police lors des émeutes de Stonewall, une série de manifestations spontanées et violentes qui a eu lieu en juin 1969 à New York, et est considérée comme le point de départ du militantisme LGBT aux États-Unis et par la suite à travers le monde. En juillet 1992, le corps de Marsha est retrouvé dans l'Hudson River. Les autorités vont conclure à un suicide, mais ses proches contestent cette version, disant qu'elle n'était pas suicidaire et surtout qu'elle a été harcelée non loin de l'endroit où elle a été retrouvée.
Nancy Cárdenas est une animatrice de radio et une actrice, auteure et metteur en scène de théâtre mexicaine. Elle révèle son lesbianisme à la télé. De plus, elle est pionnière du mouvement homosexuel au Mexique et fondatrice de la première organisation du Mexique, Frente de Liberación Homosexual. Elle évoque le sujet dans plusieurs entretiens télévisés.
Comme dernier portrait, nous avons choisi Hélène Page. C'est une actrice qui a commencé dans des émissions de télévision canadienne et a même reçu une nomination aux Oscars et aux Golden Globes. Elle a fait son coming out en 2014 où elle a vu qu'elle est gay durant une conférence. Je suis ici aujourd'hui parce que je suis gay et parce que peut-être que je peux faire une différence, aider les autres à passer un moment plus facile et plus plein d'espoir. Apparemment, son coming out a encouragé certaines personnes à le faire à leur tour. Elle a également participé à une émission télévisée de la Gaycation sur Vice TV et elle est également en tête d'affiche du film Free Love, histoire d'un couple de femmes refusées à cause de leur homosexualité. En conclusion, on peut donc dire que la situation LGBT s'améliore grâce à des personnes combattantes pour ces droits, mais que le combat n'est certainement pas terminé. Il y a encore trop de pays contre, on compte alors sur les nouvelles combattantes pour continuer cette lutte.
Merci à tous et à toutes d'avoir suivi notre nouvel épisode de l'émission Portraits et femmes, de femmes engagées pour les libertés. N'hésitez pas à revenir pour de nouveaux épisodes sur des sujets différents mais tout aussi intéressants qui apparaîtront bientôt.
Bonjour, aujourd'hui nous allons vous présenter un nouveau numéro de Portrait de femmes engagées au service des libertés. Dans cette émission, nous allons vous présenter la lutte des femmes dans la vie politique, avec d'abord une brève présentation de notre sujet, la présentation et l'écoute d'un extrait musical, et enfin quelques portraits de femmes engagées dans la lutte dans la vie politique.
Dans la vie politique, la femme a pour longtemps été sous-estimée, et elle l'est toujours. Peu de femmes arrivent à obtenir des rôles dans ce domaine, et le peu qui y arrive n'obtiennent pas une place dans les autres positions.
Nous allons vous présenter la chanson « Saluté » par Little Mix, apparue en 2013. Nous avons choisi cette chanson car elle permet aux femmes de se réveiller face au sexisme présent dans le monde, et elle atteint un public plus large en combinant ce thème avec un genre de musique plus moderne. Nous allons maintenant écouter un extrait de cette chanson.
Donc après avoir écouté cette chanson, on peut traduire un peu les paroles. On commence par entendre le mot « attention » répété 3 fois, puis la chanteuse qui dit « représentant toutes les femmes, saluez, saluez. Vous ne pensez que nous sommes juste de jolies choses, mais vous ne pourrez pas avoir plus tort. Frappez-nous, mais nous continuons à avancer, nous progressons. Vous ne pouvez pas arrêter un ouragan, mesdames, il est temps de se réveiller. » Cette chanson, elle permet aux femmes de se relever face au sexisme dans le monde politique. Et nous allons donc maintenant vous présenter 4 portraits de femmes qui ont un rôle important dans la vie politique de leur pays ou même à un niveau international.
En commençant par Kamala Harris, qui est la première vice-présidente femme des États-Unis. Elle est aussi la première vice-présidente d'origine afro-américaine et indienne dans l'histoire des États-Unis. Elle représente donc les minorités aux États-Unis.
Nous enchaînons avec la reine Elizabeth II, qui a commencé à assumer des fonctions publiques pendant la Seconde Guerre mondiale, puis, à la mort de son père, est devenue reine d'Angleterre et chef des pays du Commonwealth. Elle a régné en tant que monarque constitutionnel à travers plusieurs changements politiques majeurs, et elle l'est toujours.
Christiane Marie Taubira est une ancienne ministre de la Justice française sous le président François Hollande de 2012 à 2016. Elle a été membre de l'Assemblée nationale de la Guyane française et du Parlement européen. Elle est à l'origine de la loi reconnaissant la traite d'esclaves en tant que crime contre l'humanité et de l'instauration des faits dits historiques dans les manuels scolaires. Après l'arrivée de François Mitterrand à la présidence de la République en 1981, elle cesse son activité indépendantiste. En 1993, elle cofonde avec son mari le parti Wallari et en devient présidente.
Enfin, Nadia Zakari est une des seules femmes qui est ministre de l'Égypte. Elle est ministre de la recherche scientifique actuelle de l'Égypte et en effet la seule membre du cabinet qui est du groupe chrétien copte. Elle représente donc environ 10% de la population égyptienne. Zakari a obtenu un doctorat en biochimie médicale à l'Université du Caire. Elle est professeure en biochimie et de biologie des tumeurs à l'Institut national du cancer en Égypte. Elle a publication de recherche dans des revues scientifiques internationales.
La femme est donc sous-estimée et sous-représentée dans le domaine politique. Et c'est pour cela qu'il y a toujours eu une lutte dans ce domaine. Mais dans les années passées, elles ont commencé à avoir une représentation dans le monde politique. Mais cela n'est toujours pas assez car le but est une égalité dans ce domaine qui a pour longtemps été contrôlé entièrement par les hommes.
Enfin, nous vous remercions pour votre attention et nous vous disons au revoir.
Bonjour. Aujourd'hui, on va présenter le sujet de la lutte pour droit de vote et d'être élu pour les femmes. Le droit de vote des femmes a commencé à se développer au début du XXe siècle. Pour atteindre cet objectif, les femmes ont vécu un siècle et demi de lutte. Certaines d'entre elles ont perdu la vie pour parvenir à l'égalité des droits politiques avec les hommes. Cette lutte est particulièrement dure en Grande-Bretagne et a conduit de plus de 1000 femmes britanniques en prison. La France est l'un des premiers pays à mettre en œuvre le suffrage universel, en effet uniquement des hommes. Mais il faudra près d'un siècle pour atteindre ce droit aux femmes. En effet, le foyer des droits de l'homme, et non le foyer des femmes, sera l'un des derniers pays occidentaux à obtenir un véritable suffrage universel. Les femmes ont le droit de voter en 1944 en France.
La chanson « Daughters of Freedom » a été écrite en 1871 par Edwin Critchley. Dans cette chanson, on dénonce les inégalités que les femmes rencontrent dans la vie, précisément dans le vote durant cette période. Daughters of Freedom. On va maintenant présenter quatre femmes qui ont combattu pour cela. Annie Kenney et Christabel Pankhurst. En 1905, Annie et ses sœurs, Jessie et Jane, sont allées à une réunion à Oldham, où Christabel Pankhurst a parlé du droit de vote des femmes. Annie a été si inspirée qu'elle a rapidement organisé et pris la parole lors des réunions, et a rejoint l'Union sociale et politique des femmes, que Christabel avait récemment aidé à former. Elle et Christabel ont assisté à un rassemblement libéral au Free Trade Hall de Manchester en octobre 1905. Là, ils se sont levés et ont demandé à Winston Churchill « Si vous êtes élu, ferez-vous de votre mieux pour faire du suffrage des femmes une mesure gouvernementale ?» Lorsqu'ils n'ont reçu aucune réponse, elles ont déployé une banderole avec le slogan « Votez pour les femmes » et ont été expulsées de la réunion. Dans la lutte qui a suivi, un policier a affirmé que les femmes lui avaient donné des coups de pied et lui avaient craché dessus. Elles ont été arrêtées et accusées de voies de feu. C'était la première des 13 fois qu'Annie Kenney était envoyée en prison. Dans Prison Face, elle a écrit « La loi est plus forte que moi, mais si je ne peux pas changer la loi perverse qui tient en esclavage, la féminité amoureuse de ce pays, je mourrai au moins dans la tentative de la changer. » L'action des suffragettes est devenue plus militante au fil des années. Certaines femmes s'enchaînant à des balustrades, certaines mettant le feu à des boîtes aux lettres ou brisant des fenêtres. En conséquence, les suffragettes ont été emprisonnées et en prison. On a souvent fait une grève de la faim.
Maintenant, on va parler sur Kamala Harris. Il y a un peu plus d'un an, la sénatrice californienne voulait remporter l'investiture démocrate à la présidentielle. Au cours du débat, elle a lancé une puissante attaque contre Joe Biden pendant la campagne. Beaucoup de gens pensent que cela a gravement touché ses ambitions, mais à la fin de cette année, sa campagne était morte et c'est Biden qui l'a choisi comme partenaire de campagne, ce qui a ramené la femme de 56 ans à l'attention du pays. Et maintenant sur Sahle Werkzede. Pour la première fois, la présidente éthiopienne a nommé une femme. Sahle Werkzede, qui était une ancienne ambassadrice en France de 68 ans, une diplomate professionnelle et la seule femme chef d'État sur le continent africain. On peut donc en conclure que le combat des femmes est toujours présent et qui était long et difficile, mais qui totalement vaut la peine. On peut donc remercier ces femmes. Les femmes n'ont jamais abandonné et se sont toujours battues pour leurs droits. Et grâce aux générations précédentes des femmes, nous avons maintenant des droits égaux ou presque égaux aux hommes. Merci pour votre attention. Passez une bonne journée.
Bonjour, nous sommes Célia, Halima et Lynn. Et bienvenue dans notre interview Les Infos 24. Aujourd'hui, notre sujet va tourner autour des femmes et plus précisément sur le mariage forcé et le combat de quatre femmes. Déjà, qu'est-ce que le mariage forcé ?
Eh bien, le mariage forcé, c'est être marié à une personne connue ou inconnue contre son gré. La pratique des mariages forcés va à l'encontre de la liberté de la conscience. C'est ignorer le choix de vie de ces jeunes femmes, majoritairement, mais aussi de ces jeunes hommes.
Ces filles voient alors leurs droits d'enfance et à l'éducation volés et leurs perspectives d'avenir et d'évolution limitées. Les mariages d'enfants maintiennent les jeunes filles dans des conditions de pauvreté et d'impuissance. De génération en génération, et malheureusement jusqu'à aujourd'hui, les mariages forcés persistent.
Nous allons tout de suite parler des quatre femmes et découvrir comment elles ont enduré ce combat contre le mariage forcé et que sont-elles devenues. La première femme est Sonita Alizadeh. C'est une rappeuse qui a écrit sa musique sur le mariage forcé qu'elle a subi à 10 ans. Elle a fui en Iran et est devenue une domestique.
Puis sa mère l'a rejoint en Iran et la revend à un homme pour 8 000 euros sous prétexte qu'elle doit nourrir sa famille. La mère aussi a subi le mariage forcé, mais on peut voir que ça ne l'a pas empêché de faire subir le même sort à sa fille. Voici la musique qu'elle a écrite.
Because
Dans cette musique, elle montre à quel point elle est traitée comme un animal. Puis elle ne veut pas donner son avis sur la situation qu'elle est en train de vivre et elle n'en peut plus jusqu'au point où pendant un moment, elle a eu des pensées suicidaires. La deuxième femme est Alia. Elle a été mariée de force à un homme de 26 ans alors qu'elle n'en avait que 14.
Pendant des années, elle a été maltraitée. Sa famille était pauvre et analphabète. Elle dit que dans les zones rurales, le mariage est une des seules options pour les femmes sans éducation. En Égypte, seuls 24% des femmes ont un emploi rémunéré.
On entend d'une femme qu'elle se marie et des enfants s'occupent du foyer. Grâce à l'association CARE, Alia, aujourd'hui âgée de 27 ans, a pu s'en sortir. Elle a trouvé un travail dans une usine pour pouvoir élever ses trois enfants, nés de cette union avec un homme de 12 ans, son aîné, et veut vivre des cours d'alphabétisation.
Elle participe également à des réunions sur le mariage précoce durant lesquelles elle n'hésite pas à raconter son histoire aux autres mères. Elle leur conseille de ne pas marier leur jeune fille.
Elle veut que ses filles puissent poursuivre leurs études pour qu'elles soient en mesure de faire face aux difficultés de leur mariage, aux exigences de leur mari et aux besoins de leurs enfants. Elle ne veut pas que d'autres filles souffrent comme elle.
En France, en Suisse et dans toute l'Europe, dans l'article 37 de la Convention du Conseil de l'Europe sur la prévention de la lutte contre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique, interdit le mariage forcé. Le Maghreb, l'Afrique subsaharienne, la Turquie, la Russie, la Thaïlande, l'Asie du Sud et sous-continent indien sont majoritairement touchés par le mariage forcé.
Un film nommé 14 millions Screams a été réalisé. Ce nom vient du fait que chaque année, 14 millions de femmes sont forcées à se marier, mais 12 millions qui ont moins de 18 ans, donc mineures. Ces jeunes filles sont contraintes à des rapports sexuels et des grossesses non désirées, des violences conjugales, des pertes d'autonomie et de liberté.
Toutes ces offenses les conduisent à des dépressions nerveuses. Ces atteintes à l'intégrité et à la liberté engendrent le chantage affectif, parfois la séquestration et la déscolarisation. De plus, les femmes qui manifestent leur désaccord se voient confisquer leurs papiers d'identité par leur famille ou leur conjoint.
Elles se trouvent donc dans une situation irrégulière. Elles peuvent aussi avoir des difficultés matérielles comme des problèmes de logement, des pertes d'emploi et l'arrêt de leurs études. Une des deux dernières femmes qu'il nous reste est Meaza Ashenafi.
C'est de son parcours que le réalisateur de Disfrit s'est inspiré pour écrire son scénario. Avocate de profession, cette Éthiopienne se bat depuis des années pour le droit des femmes dans son pays.
Elle est la première à avoir créé une association pour la protection des jeunes femmes et des enfants. Grâce à la détermination sans faille de cette femme, le code pénal éthiopien a été modifié et peut punir depuis 2004 les enlèvements et les viols de 15 ans d'emprisonnement.
Mais même si les choses ont évolué, Meaza Ashenafi n'abandonne pas le combat.
Et enfin, la dernière femme est Rina Begum. Il y a quelques années de cela, Rina Begum ne pouvait pas quitter son domicile situé à l'Al-Munira au Bangladesh, à moins d'être accompagnée par un homme de sa famille. Mais tout cela est désormais derrière elle.
Aujourd'hui, Rina dirige un groupe composé de 20 femmes et nommé ECTA, autrement dit Autonomisation, Connaissance et Action Transformatrice. Leur but, eh bien, c'est tout simplement d'améliorer les conditions de vie des femmes et de toute leur communauté. Cela concerne aussi bien l'éducation des enfants
et la résolution des conflits locaux, la vaccination, l'accouchement ou encore l'obtention des cartes d'identité nationale afin de pouvoir voter. Vous vous demandez sûrement quelles sont les conséquences et les causes du mariage forcé sur ces jeunes femmes.
Eh bien, ces jeunes filles sont contraintes à des rapports sexuels et des grossesses non désirées, des violences conjugales, des pertes d'autonomie et de liberté. Toutes ces offenses les conduisent à des dépressions nerveuses.
Ces atteintes à l'intégrité et à la liberté engendrent le chantage affectif, parfois la séquestration et la déscolarisation.
De plus, les femmes qui manifestent leur désaccord se voient confisquer de leurs papiers d'identité par leur famille ou leur conjoint. Elles se retrouvent donc en situation irrégulière. Elles peuvent aussi avoir des difficultés matérielles, comme des problèmes de logement, des pertes d'emploi et l'arrêt de leurs études.
Et la cause sont la pauvreté. Dans les pays en développement, une fille est souvent considérée comme un fardeau. Son mariage permet aux parents d'avoir une bouche en moins à nourrir, de s'enrichir et de créer des alliances stratégiques avec une autre famille.
Mais aussi à cause de certaines pratiques traditionnelles, dans de nombreux pays, l'honneur d'une famille passe par la virginité féminine. Les parents marient leurs filles bien avant qu'elles ne soient prêtes à avoir des relations sexuelles, afin d'éviter qu'elles ne tombent enceintes et ne puissent plus être mariées.
Et l'absence de certificat de naissance. 230 millions d'enfants n'ont pas été enregistrés à la naissance dans le monde. Les filles possèdent aucune identité juridique, ne peuvent fournir de preuves de leur jeune âge qui prouveraient l'illégalité d'un mariage précoce.
Et enfin, notre dernière cause est la non-application des lois. Même quand le mariage précoce est interdit, beaucoup de familles l'ignorent ou enfreignent la loi. Dans certains pays, cette violation est si répandue et normalisée que les sanctions sont rares.
C'était Célia Alimaéline sur Info 24. Merci.
Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de l'émission Portrait des femmes engagées au service de liberté. Aujourd'hui, nous allons parler des femmes qui ont obtenu le prix Nobel de la paix. Le prix Nobel de la paix récompense la personnalité ou la communauté ayant le plus ou le mieux contribué au rapprochement des peuples à la suppression ou à la réduction des armées. Permettent la réunion et la propagation des progrès pour la paix, selon les volontés définies par les testaments d'Alfred Nobel. Depuis sa création en 1901, le prix Nobel de la paix a été attribué à 16 femmes, qui sont distinguées en tant que véritables combattants de paix. Découvre ensemble les visages et les œuvres de ces femmes qui ont cru dans l'autre et qui ont changé le monde. Cet article considère la place des femmes dans l'attribution du prix Nobel. Ce prix a été décerné 58 fois à des femmes, dont deux fois Marie Curie, qui en était par ailleurs la première récipiendaire féminine, avec 4% de lauréates une fois les organisations écrasées au cours des 100 premières années d'existence de la distinction. La faible proportion des femmes ayant reçu un prix Nobel révélait le fossé des genres existants dans les domaines d'attribution du prix. Les femmes sont plus fréquemment récompensées pour ces actions en faveur de la paix en littérature, et même dans ces domaines, leur nombre est toujours très inférieur à celui des hommes. Plusieurs raisons sont pointées du doigt, différentes selon les périodes historiques. Tantôt l'inaccessibilité du domaine scientifique pour les femmes, puis le contexte de la guerre froide, le manque de réseau de pairs, de propositions de femmes ou un entre-soi trop grand entre femmes et hommes, dans tous les domaines récompensés par le prix. Un effort notable a néanmoins été réalisé par les comités nobles depuis les années 1990, pour corriger les multiples biais dont ils ont été accusés au fil des années. Nous allons maintenant écouter la chanson « Give Peace » par John Lennon et sa femme. J'ai choisi cette chanson car elle est très célèbre et elle évoque la paix de 1969 pour dénoncer la guerre de Vietnam. Nous allons maintenant présenter quatre femmes qui ont reçu le Nobel de la paix. On va commencer par Bertha von Suttner. Le prix Nobel de la paix a été décerné le vendredi 9 octobre au Programme alimentaire mondial des Nations Unies pour sa contribution à l'amélioration des conditions de la paix dans les zones touchées par les conflits et pour avoir joué un rôle moteur dont les efforts vivant à empêcher l'utilisation de la faim comme armée de guerre. C'est la militaire pacifique Bertha von Suttner qui convainquit Alfred Nobel de distinguer les personnalités et organisations promouvant le rapprochement des peuples juste au retour des choses en 1905, 4 ans après la création de ce prix. L'Autrichienne est la première femme à recevoir à cette occasion les annales politiques littéraires publie un extrait de son livre manifeste « Bas les armes » paru en 1891. On va maintenant présenter la femme Rigoberta Menchú. Elle a eu le prix Nobel de la paix en 1979. Elle entre dans l'organisation que fondant son père, le CUP, Comité d'unité paysanne. Le 31 janvier 1980, son père a eu de vingtaines de paysans morts, brûlés dans l'incendie de l'ambassade d'Espagne provoqué par les forces de l'ordre. Elle était jusqu'à aujourd'hui la plus jeune lauréate de prix Nobel puisqu'elle avait 33 ans en 1992. Cette Guatémaltaise de l'ethnie Maya des athées récompensée pour son engagement aux côtés des Indiens opprimés lors de la guerre civile contre le gouvernement militaire du Guatemala qui a été fait depuis 2000 morts parmi les autochtones. Nous allons maintenant présenter une autre femme qui a reçu le prix de Nobel, la Mère Teresa. De son véritable nom, Mère Teresa est sûrement la lauréate du prix Nobel de la paix la plus connue. Née le 6 août 1910 et morte le 5 septembre 1997. Celle-ci était une religieuse catholique, surtout connue pour son action caritative personnelle auprès des pauvres, des orphelines, mais aussi des lépreux. Déjà décorée par plusieurs récompenses, c'est le 16 octobre 1919 qu'elle reçut le prix Nobel de la paix qu'elle accepta au nom des pauvres. Mère Teresa est une religieuse catholique indienne d'origine albanaise, fondatrice de la Congrégation des missionnaires de la charité. Mère Teresa, canonisée par l'Église catholique comme Sainte Teresa de Calcutta, est une religieuse catholique albanaise naturalisée indienne, missionnaire en Inde, prix Nobel de la paix 1979. Née le 26 août 1910 dans l'Empire ottoman et mort le 5 août 1910 à Calcutta. Elle est surtout connue pour son action personnelle caritative et la fondation d'un congrès religieux. Les missionnaires et la charité qui l'accompagnent et suivent son exemple. Au revoir.
Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro d'émission Portrait de femmes engagées au service des libertés. Aujourd'hui, nous allons parler de l'égalité politique hommes et femmes. L'égalité politique hommes et femmes, elles sont 21. Seule une poignée de femmes chefs d'État ou de gouvernement dirigent un des quelques 200 pays du monde. La Nouvelle-Zélande, premier pays au monde à avoir accordé aux femmes le droit de voter en 1893 et de se présenter à des élections en 1919. Ainsi que la Finlande, premier pays européen à avoir accordé aux femmes le droit de voter et de se présenter à des élections en 1906, sont tous les deux dirigés par des femmes. 11 femmes dirigent des pays européens. 4 autres sont la tête de pays asiatiques, les 6 autres sont équitablement répartis, 2 en Afrique, 2 dans les Caraïbes et 2 dans l'Océanie. On peut ajouter à cette liste la reine d'Angleterre, Elizabeth II, qui sont les dirigées dans les faits et pour autant à la tête de 16 pays, ainsi que la reine du Danemark, Margaret la seconde, qui ne dirige pas non plus le pays en étant officiellement le chef d'État, citant aussi Nicolas Sturgeon, premier ministre de l'Écosse, qui n'est pas un État. La chancelière allemande Angela Merkel est la responsable politique au pouvoir depuis le plus longtemps. Elle dirige l'Allemagne depuis 14 ans. 16 de ses responsables politiques exercent leurs fonctions depuis 5 ans au moins. Les chefs d'État en Europe sont l'Allemagne, Angela Merkel, chancelière depuis novembre 2005, Belgique, Sophie Wilms, première ministre depuis octobre 2019. Maintenant, je veux vous présenter la chanson Don Woman, qui a une relation avec notre thème, qui est l'égalité politique hommes et femmes. I fight my way through the 5 o'clock rush hour as daylight slowly leaves the sky. I open the door to that little room we call home. Merci pour avoir suivi cette émission.